Et bonjour à tous, c'est l'avant-match du Paris Saint-Germain face à Dortmund, le premier match de Ligue des Champions. On est avec Tonton et Kevzor. Déjà, on va aborder les pronos de chacun. On va voir qui avait raison, parce que sur les derniers pronos, il y a une fois Kevzor, il a eu raison. Sinon, c'était compliqué pour le reste de la team. Alors, Tonton, c'est quoi ton prono pour Paris Saint-Germain-Dortmund?
Alors, pour donner quand même un contexte à tout ça et pas donner mon prono comme ça sans que les gens le comprennent, je me suis un peu basé sur les matchs des deux équipes qui ne sont pas au même stade de leur projet. Le PSG est sur un nouveau projet avec Luis Enrique qui a démarré il y a peu de temps. Il y a eu un gros renouvellement d'effectifs et beaucoup de recrues qui sont des titulaires. Et l'équipe a l'impression de monter en puissance malgré la défaite contre Nice. Tu as l'impression que dans le jeu, ça va de mieux en mieux et que cette équipe est en progrès. Et quand tu prends la courbe de Dortmund, c'est plutôt l'inverse. Depuis que Dortmund a fait une deuxième partie de saison canon en Bundesliga la saison dernière et aurait pu récupérer le titre pour la première fois depuis 2012, bah finalement, il craque sur la fin, mentalement. Et à la suite de ça, bah, tu as Bellingham, meilleur joueur peut-être de Dortmund, qui quitte le club, qui n'est pas remplacé par un joueur du même profil. Et la saison Bundesliga, ça démarre assez mal. Hein. Tu es sur deux matchs nuls et deux victoires, dont un match nul contre le faible promu Heidenheim. Là, tu te dis que pour Dortmund, c'est un peu tendu. Et si je devais donner un pronostic, je mettrais un 3-2 ou 3-1 en faveur du PSG.
Pour ne pas changer, pour un match à domicile, je vais dire 3-1. Comme ça, je ne change pas, je reste moi-même. Et toi, Kevzor ?
Ouais, j'aurais dit 3-1 aussi parce que je pense qu'on a quand même quelques carences défensives. Je pense que notre milieu de terrain ne permet pas forcément non plus de dominer outrageusement un adversaire en Ligue des Champions. Et voilà, mais je pense aussi que le retour de Marquinhos va nous faire énormément de bien. Donc je dirais 3-1 aussi.
Ok, on va parler de l'adversaire du jour, le Borussia Dortmund, qui, j'ai vu ce week-end, était mené 2-1 et qui sont bien revenus. Ils ont gagné le match 4-2. Quand même, il y a pas mal de buts sur les coups de pied arrêtés. Il y a une force que Dortmund a, que j'ai vu sur ce match en particulier. C'est le jeu assez rapide en transition qui est une des faiblesses du Paris Saint-Germain jusqu'à maintenant. On a vu face à Nice. Tonton, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Dortmund en ce moment et comment ils risquent de jouer face au Paris Saint-Germain?
Bah, justement, moi, j'avais misé 3-1 ou 3-2 dans le sens où, quand tu regardes la manière dont on marque les buts Dortmund contre Fribourg, ça ressemble à la manière dont nous on les encaisse, c'est-à-dire des coups de pied arrêtés, c'est-à-dire des contres. Et quand tu sais que bah, justement Haller peut parfaitement jouer le rôle de pivot avec un Malen et un Adeyemi qui vont prendre la profondeur, qui vont être lancés par des Brandt et des Sabitzer ou des Emre Can, tu sais que justement tu peux te faire entre guillemets un peu ouvrir sur les contres si tu les joues mal. Après, comme le disait Kevzor, je pense que le retour d'un Marquinhos dans la défense centrale dans ce genre de match peut faire du bien, parce qu'un Danilo Skriniar face à ce match-là, tu t'ouvres entre guillemets à la même probabilité de scénario que contre Nice. Mais en même temps, comme je disais, le Borussia, c'est pas l'équipe la plus en forme de Bundesliga cette saison. Quand je regarde jouer le Bayer Leverkusen, Leipzig, le Bayern, c'est des équipes qui sont beaucoup plus impressionnantes, et j'ai l'impression que le Borussia, qui traverse un peu une crise avec Terzic, va avoir du mal à concurrencer ces trois équipes pour le podium en tout cas. Donc je pense que Dortmund, même si c'est une équipe qui peut nous poser des problèmes, il faut prendre en compte que quand même, malgré leur victoire contre Fribourg récemment, ce n'est pas l'équipe la plus en forme, et elle est peut-être moins en forme qu'au moment où on l'affronte pendant le Final 8.
Alors Kevzor, en restant sur l'axe Dortmund, est-ce que tu n'as pas peur, après ce que tu as vu samedi, des transitions rapides de Dortmund face au Paris Saint-Germain?
Non, étant donné que Marquinhos va être de retour et que du coup on n'aura pas nos deux centraux qui vont aussi vite que moi quand je cours, ben, ce sera beaucoup plus simple, hein, la gestion de la profondeur. Marquinhos, même si c'est pas forcément l'expert ultime, va bien plus vite qu'un Danilo ou qu'un Skriniar. Je trouve que quand même la relation Marquinhos-Hakimi sur le côté droit est quand même plutôt intéressante. J'ose espérer que Hernandez va réélever son niveau de jeu, parce que ça fait deux matchs qu'il est j'allais dire catastrophique, j'exagère, mais qu'il n'est vraiment pas bon et pas au niveau qu'on attend de lui. Et voilà. Et puis après, il y aura le retour d'Ugarte aussi, qui va permettre d'avoir une assise défensive beaucoup plus cohérente. J'ose espérer aussi que Vitinha et Warren vont réélever aussi leur niveau de jeu. Donc voilà. Maintenant, je te dis, moi je suis quand même assez serein sur le fait que Marquinhos va rééquilibrer cette défense.
Puis même le duel Ugarte-Emre Can, qui sont tous les deux des chiens devant la défense. Je pense que le duel va être super intéressant, en tout cas, entre Emre Can et Ugarte. J'ai hâte de le
Après,
voir.
s'ils sont tous les deux devant la défense, je pense qu'ils ne vont pas être au duel l'un contre l'autre.
Attends, Ugarte, il monte beaucoup au pressing quand même.
C'est vrai.
Et Emre Can, il est capable de se projeter aussi sur les phases offensives, notamment les coups de pied arrêtés. Donc, je pense que même si ce ne sera pas le duel du match, il y a moyen qu'on voit ces deux joueurs en confrontation et ça peut donner quelque chose d'intéressant.
Ok. On va parler du côté du Paris Saint-Germain, parce que là, on a parlé des forces de Dortmund qui pourraient nous faire mal, parce qu'elles correspondent à nos faiblesses. Mais là, il y a des faiblesses de Dortmund qui correspondent aux forces du Paris Saint-Germain, parce que j'ai aussi vu un Dortmund qui se projette beaucoup et qui laisse beaucoup d'espace dans son dos et qui n'a pas une défense exceptionnelle. Et on ne va pas dire que Hummels, c'est un mec très, très, très rapide. Donc, il y a pas mal de trous dans la défense que Kylian Mbappé, que Dembélé peut utiliser également. Après, on ne sait pas qui sera en pointe, si ce sera Gonçalo Ramos ou Kolo Muani. Je pense personnellement qu'avec Kolo Muani, Dortmund risque de prendre un peu plus cher. Parce que peut-être Gonçalo Ramos, il va plutôt être utilisé comme un point de fixation. Donc, peut-être qu'il va peut-être libérer les espaces pour les deux ailiers. Ça peut être aussi intéressant. Mais je pense que si tu mets les trois, tu auras la défense de Dortmund complètement folle. Ils pourront pas suivre les trois. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses.
Bah, après, oui, justement, le profil de Kolo Muani pourrait être très utile dans ce match. En revanche, moi, j'allais te dire, j'aurais plutôt mis Kolo Muani à droite et Ramos dans l'axe. Et en cours de match, je fais rentrer les Barcola et Dembélé pour apporter de la fraîcheur en fin de match. Mais ça reste mon point de vue, tu vois. Mais en soi, oui, je suis pour la titularisation de Kolo Muani, mais après, je peux entendre le point de vue de mettre un Kolo Muani, Dembélé et Mbappé pour essayer un maximum de prendre cette profondeur pour les moments où Dortmund va jouer trop
haut. Et toi, Kevzor ?
Non, Dembélé sera titulaire et je suis pour la titularisation de Dembélé. Dans le projet de jeu de Luis Enrique, concrètement, Dembélé est un mangeur de ligne et un mangeur d'espace en un contre un. Donc, par rapport au fait que Mbappé rentre et se réaxe beaucoup... à l'intérieur du jeu, enfin plutôt même en deuxième attaquant côté gauche, Dembélé par le fait qu'il soit vraiment long de ligne côté droit permet en fait d'étirer cette défense et de travailler vraiment du 1 contre 1 voire du 1 contre 2, parce que dès qu'il élimine un joueur, il est de suite pris par un second et c'est là où en fait ce profil de Dembélé est quand même intéressant, malgré que j'avais le démon vendredi qu'il ait raté des occasions qui sont immanquables. Son profil par rapport à ce projet de jeu est important. Et pour moi, Kolo Muani ne sera jamais un ailier droit au PSG. Le recrutement fait que ce sera soit Barcola, soit Dembélé à droite. Et j'en suis franchement, sauf hécatombe de blessure ou méforme, je suis convaincu que ce sera même pas forcément même une concurrence à droite. Je pense que Barcola est là pour apprendre au moins 6-8 mois à droite après Dembélé pour le faire souffler. Je pense que Kolo et Ramos vont être en concurrence devant. Et je pense que Mbappé sera tout le temps à gauche avec éventuellement Asensio quand il aura besoin de souffler. Et encore, Mbappé souffle jamais. Donc, donc voilà, je pense que concrètement, il faut mettre Kolo ou Ramos en pointe et Dembélé et Mbappé. Je pense aussi que même si Mbappé met deux très jolis buts, vendredi, il va aussi élever son niveau de jeu, parce que je l'ai trouvé quand même pas mauvais, mais il aurait pu faire quand même aussi beaucoup mieux dans la profondeur. Je trouve qu'il fait moins d'appels quand même.
Ça dépend. Je pense que peut-être que la présence de Ramos n'est pas forcément la meilleure chose pour Kylian. Parce que c'est vrai qu'il voulait un point de fixation, mais dans un autre système. C'est dans le système qu'on jouait l'année dernière en 3-5-2. Là, dans un 4-3-3, franchement, je vois les appels de Ramos, ils ne correspondent pas forcément à ce que Kylian il a besoin.
Regarde, en équipe de France, c'était 4-3-3, 4-2-3 pendant un moment avec Giroud en 9 et Mbappé à gauche.
Oui, mais quand tu vois les appels de Ramos, j'ai regardé ses appels face à Nice, il fait beaucoup d'appels comme Cavani. Et tu vois, c'est un ailier, pas comme Mbappé pour lancer Ramos, tu vois. Mbappé, c'est pas le mec qui va faire une louche pour lancer Ramos dans la profondeur.
Alors
Mbappé,
ça, j'allais dire,
il va combiner avec un mec à l'entrée de la surface, ils vont faire des 1-2, et après, à un moment, il va faire une passe au mec qui va frapper.
Alors toi, quand tu parles des louches, justement, en fait, tu vises pas le bon joueur. Moi, en fait, pour moi, c'est plus à Vitinha et à Marquinhos de faire ça.
Oui, aussi.
Marquinhos,
il a cette capacité.
De
faire des louches.
De faire des longues passes et de lancer Ramos. Alors, pas la louche en mode Neymar pour Mbappé, t'as vu, mais
oui, dans le sens de dire, des louches de la surface, Marquinhos.
Non, vraiment, tu vois, dans le sens où position basse, tu sais, comme il faisait à un moment avant qu'il perde confiance en lui, il avait ce truc que Bonucci et Boateng faisaient à une époque aussi, tu sais, ils organisaient le jeu depuis très bas en lançant des longs ballons. Et si t'arrives à ce que Marquinhos fasse ça à nouveau.
Sur du jeu long.
C'est ça, mais Marquinhos, franchement, il faudrait arriver à ce qu'il fasse ça à nouveau, parce que là, maintenant, pour le coup, contre Dortmund, ce serait utile.
Bah c'est ça, parce que Gonçalo Ramos, les personnes qui vont lui donner ces ballons-là, parce que je me rappelle, les gens qui donnaient le ballon à Cavani quand il faisait ça, c'était Verratti ou Marquinhos. Et là,
le fait que je te dis que c'est à Vitinha et à Marquinhos de le faire.
Oui, mais Vitinha ne le fera pas. On le sait tous, Kylian ne le fera pas. Donc la seule façon d'exploiter le neuf, c'est d'avoir un mec qui combine avec lui. Et je t'ai dit, pour l'instant, Ramos, il fait des appels dans la profondeur, c'est pas ce que veut Kylian. Mais bon, bref, on verra comment ça se passe dans le match face à Dortmund. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, et n'oubliez pas que ici, c'est Paris. Ciao.